Salut Daniel et toute l'équipe. Hier, nous avons bénéficié d'une heure de bonheur dans ce petit village nommé La Salle. Merci à tous. René de Montpellier.
Ouais, je voudrais laisser ce message, bon, bien sûr, à tous les auditeurs, mais plus particulièrement à Claude de Bègle, parce que je sais que c'est un poète et qui nous fait des messages qui sont magnifiques. Voilà. Il y a des scientifiques qui ont étudié le vol du bourdon. Ils ont voulu comprendre comment le bourdon arrivait à voler. Ils ont fait des études, ils ont calculé le volume, la densité, le poids, le battement des ailes, la puissance, enfin tout un tas de trucs. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était impossible que le bourdon vole. Techniquement, scientifiquement, c'est impossible que le bourdon vole. La seule explication qu'on a au vol du bourdon, c'est qu'en fin de compte, le bourdon ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Et c'est pour ça qu'il vole. Et donc, dans un mois, ça sera très certainement le thème du prochain repère, la théorie du vol du bourdon ou la dictature de la peur. Éric de Fayence, ciao viva. Portez-vous bien. Bisous, Claude.
Il m'est venu ça, là, maintenant. De son lit d'hôpital, elle a peut-être senti comme ça. Elle s'est dit... c'est pas le truc magique, elle a dû se dire, ouais, je parie qu'il est en train de téléphoner. Et puis, elle s'est peut-être dit, bon, mais, pour pouvoir l'entendre, il faut que j'aille là-bas, quoi. Parce que sinon, il me parle pas. Il me parle pas assez. Alors, je vais aller là-bas, pour savoir ce qu'il raconte. C'est peut-être ça. Je suis pas sûr du tout, hein. Je dis ça, mais bon. Je sais bien que c'est une façon de parler. Voilà, Agnès. Bon, tu raconteras, Daniel. voilà. On est le 25 mai aujourd'hui. Et puis j'ai noté là sur l'agenda. Ça fait 3 mois qu'elle a quitté la maison aujourd'hui. 3 mois. Elle est partie, elle avait mal au ventre. Elle n'est pas revenue. À un moment donné, j'étais avec elle dans la chambre et elle me disait j'ai peur. Mais la vie, c'est comme ça. Les gens, ils ont beau dire, mais j'ai peur, il va m'arriver quelque chose. On peut rien faire pour eux. Et puis, la vie ne fait pas de cadeaux, comme chantait Aurel. Et puis, mais t'as beau avoir peur, il va pas y avoir de providence, quoi. C'est quand même monstrueux, la destinée humaine. Ouais, je suis encore un peu pessimiste, là. Allez, la bise Agnès. À bientôt. Là, j'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, pour maintenant, quoi. Peut-être dans la soirée. Vaut mieux appeler aux heures creuses, hein, quand même. Mais bon, de toute façon, j'aurai 25% de réduction.
Bonjour. Vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Voici le message.
Pourquoi les morts ont le sommeil profond?
À bientôt sur les services d'Orange.
Bonjour, c'est Jean-Claude pour informer les auditeurs que le repère de Joinville-le-Pont va renouer avec la tradition, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dorénavant le vendredi en fin de mois, donc le prochain vendredi 29 mai. Le rendez-vous est au rendez-vous gourmand, qui se trouve au 7 allée rue Nègre à Joinville-le-Pont, à côté des anciens studios de cinéma. Alors on y parlera de tout. Des européennes en particulier, plus d'autres choses, des délocalisations, de Marx, enfin de tout ce qui est actuellement semble être dans l'air du temps. Donc rendez-vous amical et sympathique. Voilà. Allez, à bientôt.
Daniel, c'est François. Bah, écoute, je t'appelle pour te dire que là, on est en train de partir, on part d'Amiens, pour aller mener notre action anti-lobby à Bruxelles, où on va aller poser notre plaque, qui est donc dans le coffre, où il est écrit « Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ?» Donc cette phrase de Bertolt Brecht, inaugurée donc aujourd'hui le 22 mai 2009, sans Madame Fontaine ni le bourgmestre de Bruxelles, avec Fakir, les jeunes du syndicat belge, la FGTB, l'IPAM, ATTAC, le Corporate Europe Observatory, et ainsi de suite, un certain nombre d'organisations et de syndicats. Bon, je sais pas trop si les autorités vont nous laisser poser tranquillement notre plaque en musique et puis tout ça. On verra bien, enfin, tu auras des nouvelles plus tard, quoi. Mais notre délégation Picarde est en route vers Bruxelles. Ciao.
En tout cas, voilà pourquoi tous les honnêtes citoyens européens qui se sont rendus à Bruxelles au cours de ce long week-end afin de s'informer, de visiter en vue des élections, ont été quelque peu surpris, en effet, de lire à quelques mètres de l'entrée du Parlement européen cette plaque avec la phrase de Bertolt Brecht qui vient d'être citée. Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Alors vous avez entendu, François Ruffin, on a reconnu ces réseaux terroristes baptisés pour la France, la section française, c'est Fakir, et on voit que la pieuvre s'étend à toute l'Europe maintenant, ce qui ne m'empêchera pas d'ailleurs d'être demain soir à 19h30 pour la projection de Chomsky et compagnie à Amiens, à la salle d'Ouailly. Voilà, suivi d'un débat, bien évidemment. Je reviens à la plaque apposée si près de l'entrée du Parlement européen. C'est que cette plaque avait été apposée sur une autre plaque qui avait été posée, elle, par le lobby des lobbies. Si bien que les braves visiteurs ont été quelque peu désorientés. Mais heureusement, là-bas est là, là-bas était là, à Bruxelles, au cœur des lobbies, au cœur de cette lobby planète, au cœur de la lobbycratie européenne. Que sont ces lobbies? Que pèsent ces lobbies sur les politiques européennes concernant 26 pays, ce qui n'est pas mal, et que pouvons-nous, à travers nos bulletins de vote, faire contre ce lobbying qui est en grande partie, en grande majorité, le lobby du business et des affaires? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Autre chose. Merci, mille fois merci à tous les amis de La Salle dans les Cévennes. Nous avons passé un délicieux week-end avec ce festival du film documentaire. Merci pour le petit pot de miel, les bouteilles de Sauvignon. Merci à Geneviève et merci aux Fanfarons. Et puis, mercredi, eh bien, on part pour la Bolivie. Un long voyage avec le camarade Antoine Chao. La Bolivie, aujourd'hui, un carnet de route à travers Santa Cruz, Sucre, Potosi, La Paz, El Alto, l'Altiplano, pour comprendre un peu comment marche ce pays depuis 2005, depuis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales. Ça a suscité pas mal d'enthousiasme, pas mal d'engouement de ce côté-ci. Oui, qu'en est-il? Ce que nous avons compris, ce que nous avons saisi et ce que nous allons essayer de vous faire comprendre, partager au cours de ce voyage donc qui commence mercredi. Puis une dernière chose au sujet des repères de la Basse et J'y suis. Je rappelle que les repères de la Basse et J'y suis sont ouverts à tous. Et l'idée, c'est qu'on y retrouve à peu près les sensibilités qui sont celles des auditeurs de la Basse et J'y suis et de France Inter en général. Il ne faut pas que ça devienne des petites cellules d'amis qui se retrouvent entre soi, ce qui n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas le but des repères. Les repères sont des lieux ouverts au débat et à la contestation, bien évidemment. Donc, en route pour Bruxelles. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, rendez-vous demain mardi 26 mai au repère du Pays d'Aix à 19h30 au bar Le Festival Cours Mirabeau près de la Rotonde. Le thème qui a été choisi, c'est approfondir la notion de démocratie. Merci, au revoir.
Oui, j'ai entendu aux infos cet éleveur-là qui se plaint de vendre son lait à perte. Alors il met en cause les groupes qui lui achètent son lait. Alors il cite comme ça Lactalis. Ouais, c'est facile d'accuser Lactalis, le premier groupe fromager européen, avec ses marques Président, Bridel, Lactel. J'ai envie de lui dire à ce monsieur qu'à travers ce mot de Lactalis, c'est toute une famille qui stigmatise. Eh ben, une belle famille française, Monsieur Emmanuel Beignet et sa famille sont quand même, ne lui en déplaise, la 13e fortune française. Elle n'était que 17e en 2007. Elle pèse 4 milliards d'euros en 2008. En progression de 33% par rapport à 2007 et même de 60% par rapport à 2006. Alors au lieu de dénigrer, il devrait prendre exemple sur cette belle réussite.
Monsieur Darcos, fouille des élèves, brigade à l'entrée des écoles, c'est bien, vous vous occupez de la violence faite aux profs. Alors faut continuer. 7 suicides en 2008 chez France Télécom, des accidents mortels dans les chantiers, du harcèlement au travail cause de rentabilité. Allez-vous multiplier par 100 le nombre des inspecteurs du travail? Ils ne sont que 1370 pour 23 millions de salariés. Ah là, il faudrait taper sur les patrons. Non, vous préférez taper sur nous. Tout est prétexte pour nous priver un peu plus de nos libertés. Vous pourriez aussi vous attaquer aux 30 000 morts d'abus du sel. Un spécialiste y est attaqué et a été poursuivi par les lobbies du sel. Sur les 30 suicides par jour, il y en a certainement 5 qui sont directement la cause des délocalisations ou du chômage. Mais ça n'a aucun intérêt pour vous et votre gouvernement. On ne tousse pas au patronat. Je pense que vous regardez trop les séries policières. Au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Le président Omar Bongo est malade, mais son entourage n'est pas inquiet. Ça tombe bien, nous non plus.
Ah là, le Parlement européen à Bruxelles, cette construction un peu kitsch en glace, en verre et en acier qui est le Parlement européen.
Donc cet arbre-là est donné par le Society of European Affairs Professionals, so the organization representing the lobbyists.
Fédération européenne du lobbying et des public affairs.
Ah, ils ont offert un petit arbre.
Sur une petite place, derrière le Parlement européen. Les questions importantes doivent être résolues par la décision et la discussion, avec la détermination, de la patience et de la persévérance. Ça
vous
dirait du Raffarin, non?
Ah oui, oui, oui. Mais c'est Raffarin, ouais.
And basically, this organization, CEAP, this lobbyists lobby.
Oui, c'est en fait, c'est CEAP, c'est the Society for European Affairs Professionals, la société pour les professionnels des affaires européennes. C'est le lobby des lobbies qui fait sa promo ici en plantant son arbre et en offrant gracieusement son arbre et qui a été inauguré en présence de Nicole Fontaine.
Le 6 décembre 2001, avec Freddy Tillmans, le maire de Bruxelles.
Last year in March, the president of this organization sent an angry letter to the kind of secretariat of the European Parliament.
En mars 2004, le responsable de ce lobby des lobbies a écrit une lettre de mécontentement.
Because the public benches were overcrowded in the European Parliament.
Parce que les bancs publics étaient envahis dans le sein du Parlement européen, qu'il y avait plus de place.
Oh. They were not overcrowded by citizens who wanted to hear what was discussed in the European Parliament. It was just the increasing number of lobbyists which kind of completely outgrew the capacity of the seats and the headphones.
Et ces bancs publics étaient dans l'enceinte des institutions européennes. C'était pas des citoyens européens qui venaient les occuper pour voir ce qui se passait, comment on décidait de leur destinée, mais c'était occupé. Tous les bancs étaient occupés par des lobbyistes qui réquisitionnaient toute la place possible et tous les écouteurs de traduction.
C'est la lobbycratie.
Oui. So that is 7 lobbyists per member of the European Parliament.
C'est 7 lobbyistes par membre du Parlement élu.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Venti. Là-bas, si j'y suis, Lobby Planète.
Flight number 2, arriving from
New York. Je suis Eric Veselius et je travaille avec un groupe de recherche et de campagne basé à Amsterdam qui fait des études sur le lobbying dans une façon critique qui s'appelle Corporate Europe Observatory, donc Observatoire européen des entreprises.
CEO. Mais ça, c'est pas un sigle tout à fait innocent.
Ça veut dire aussi PDG. Chief anglais.
Executive Officer, PDG.
C'est un petit jeu.
Et alors là, tu nous as donné rendez-vous ici, pourquoi? Dis-nous où on est là.
On est ici sur le rond-point Schumann. C'est un petit parc pathétique.
Oui, c'est un petit parc pathétique.
C'est vrai, parce que avec trois fleurs et de la boue et des parterres qui ne sont pas
mais,
du tout faits.
Oui, mais c'est le cœur de l'Europe.
C'est ça. La qualité du parc est minimale, mais la qualité des bâtiments autour, qui sont autour, c'est vraiment les sièges du pouvoir européen.
Nous voilà dans le nombril de l'Europe. Place Robert Schuman à Bruxelles. Et on est au cœur de cette Europe qui nous intrigue, que nous détestons, que nous aimons, que nous voulons, que nous ne voulons plus, que nous ne voulons pas comme on nous la présente. C'est le cœur de cette Europe, c'est le centre de cette Europe, là où nous nous trouvons donc avec Eric Vesselius, de cet observatoire de l'Europe industrielle, comme il l'indique, comme je l'ai indiqué, ça fait des années que ces chercheurs observent l'influence des multinationales à travers le lobbying sur les décisions prises par le Conseil des ministres européens, où siègent les ministres des Affaires européennes de chacun des pays membres, qui nomment les commissaires européens à raison d'un par pays. Ces commissaires sont chargés de différents dossiers, environnement, commerce extérieur, énergie, politique régionale, etc. Par exemple, Pascal Lamy, c'est un nom qui vous dit quelque chose, était commissaire au commerce, chargé des négociations avec l'OMC au nom de l'Europe, c'est-à-dire au nom de 400 millions d'êtres humains, sans autre légitimité que celle de ce Conseil. Et puis, il y a également à Bruxelles, le Parlement européen qui siège 10 jours par mois à Strasbourg. Le reste du temps, il est à Bruxelles. Et ce Parlement, c'est nous qui l'avons élu. Ça, ce sont nos élus qui n'ont pas l'initiative des lois, leur pouvoir se limitant à ratifier et à amender. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, ce n'est pas très facile à piger. Mais ce que nous avons très très bien compris, c'est que là-dedans, la démocratie n'est pas très 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 directe. Et les décisions qui sont prises et qui concernent nos vies quotidiennes, eh bien nous n'avons pas tellement de prise ni de pouvoir sur ces décisions, d'autant moins qu'il y a ces lobbies. Alors pour nous, dans nos pays, un pays comme la France et d'autres pays, on dit les pays latins ne supportent pas les lobbies. C'est un cliché. Il faut dire que ces lobbies sont puissants. On va se balader dans la partie visible, dans ce qui est visible. Vous pouvez faire cette visite guidée. D'ailleurs, le CIO, ces chercheurs hollandais organisent pour des chercheurs ou des journalistes une visite. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Eric Vesselius. Avant de se mettre en route et avant de partir, ce petit texte de Pierre Bourdieu, qui est en préface du livre de ce groupe de chercheurs, Europe Inc., et qui dit ceci, le Pierre Bourdieu: les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. La vulgate néolibérale, orthodoxie économico-politique, si universellement imposée et si unanimement admise qu'elle paraît hors des prises de la discussion et de la contestation, n'est pas issue d'une génération spontanée. Elle est le produit du travail prolongé et constant d'une immense force de travail intellectuel concentrée et organisée dans de véritables entreprises de production, de diffusion et d'intervention. Et bien, c'est dans cette force de travail, ce qui en est donné de visible, que nous allons, avec Guy Van Til, nous balader aujourd'hui, Lobby Planète.
Oh, sondages de Meurthe Télécom et de CGTL. Et
depuis 1996, attaque.
Samsung
a 4,2% à 19,60€. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le relèvement de recommandations effectuées par Exane BNP Paribas.
À ma main droite, il y a le Berlaymont. Berlaymont, c'est le nom du bâtiment. C'est là où la commission de M. Barroso a son siège. Donc là, il y a 2700 gens qui travaillent dans ce bâtiment-là.
Ils travaillent à quoi ?
Ce sont les commissaires, leur cabinet et leurs équipes. Donc toutes les lois européennes sont développées ici avec la commission. Et après, le Parlement et le Conseil, qui est dans le bâtiment à gauche de nous, doivent approuver ces propositions et ils peuvent aussi amender ces propositions. Donc, pour les lobbyistes qui veulent influencer la direction, le contenu des lois européennes, c'est très important de faire attention sur la Commission, d'influencer des lois.
Oui, pour eux, c'est très important d'être là dès le départ, dès que les lois s'élaborent, dès l'élaboration des lois.
Et en plus, la Commission n'est pas une très grande bureaucratie. Ça semble bien grande, mais quand on compare avec des bureaucraties nationales, ce n'est pas extrêmement grande. Donc, il y a un problème de capacité technique pour rédiger les lois, les textes. Donc, la Commission a toujours été très ouverte aux lobbyistes.
Eh oui, le mammouth européen n'est pas si gras que ça. Pour machiner le machin, il y a autant de fonctionnaires pour toute l'Europe donc que pour une ville comme Paris ou comme Marseille. Donc c'est une chance pour les lobbyistes qui apportent expertise, conseils à tout un chacun.
Ici en Bruxelles, il y en a 15 000 lobbyistes.
Ah, il y a 15 000 lobbyistes 15 000. Ici à Bruxelles.
Oui. Et on peut dire que 2/3 travaillent pour des intérêts commerciaux des entreprises. Mais seulement 10% sont des gens qui défendent des intérêts des travailleurs, de l'environnement, des consommateurs.
10% ONG, syndicats, oui, et associations de défense.
C'est ça, c'est ça. Et il reste 20-30% que sont des lobbyistes, pas pour des pays, mais par exemple pour des régions ou pour des villes, des cités.
C'est-à-dire que oui, c'est que toutes les régions françaises, par exemple, sont représentées à Bruxelles, Provence-Côte d'Azur, Bourgogne.
Et c'est-à-dire que tu dis qu'il y a environ 10% qui défendent, disons, des causes sociales, oui, ou environnementales, oui, 25% qui défendent des causes d'intérêt général, la promotion d'une ville, d'une région, oui, etc. Et puis tout le reste.
Tout le reste, d'une façon ou d'une autre, défend les intérêts des entreprises, c'est ça.
C'est ça.
Il y en a 300 entreprises majeures qui ont une représentation ici à Bruxelles. Par exemple, en ce square, dans les bâtiments...
Tout autour de nous, oui.
Là, il y en a British Petroleum, Philip Morris.
Donc le pétrole et les cigarettes.
Là, il y a General Electric, qui est une entreprise américaine.
Grosse industrie.
Là, il y en a Dow Chemical, DuPont, Boeing, Airbus.
Dow Chemical, nos amis de Bhopal.
Bhopal, mais oui.
Donc, ils ont des bureaux ici, dans ces bâtiments-là.
Dans ce petit rond-point qui fait face à la Commission européenne.
Oui, c'est ça. For many people, the link between what happens in their country and the European level is not so clear.
Pour beaucoup de gens, ils n'arrivent pas bien encore à voir le lien entre ce qui se passe, la situation dans leur pays et les décisions qui sont prises au niveau européen.
C'est ça. Alors, est-ce que tu crois que ça a été volontaire de dissocier Bruxelles et l'Europe ?
C'est utile pour des gens qui sont dans les gouvernements nationaux. C'est très utile. Ils peuvent toujours dire, ah, c'est une décision européenne, il faut diminuer le déficit du budget national.
C'est une directive européenne, on n'y peut rien, quoi. C'est rien dessus.
Mais ce sont les ministres qui ont dit, ok, on fait ce...
Qui ont fait cet accord.
Oui, donc ils sont complices.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés. Des analyses à toute heure et le point de vue des décideurs. Vous en avez rêvé ? Bloomberg Télévision l'a fait. Une analyse et une couverture complète des marchés.
Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, radio-télévision publique belge. Je me suis occupé pendant 35 ans de l'Europe. Tout ce qui est sommet, conseil de ministre, et surtout au travail fait autour de l'Europe par les lobbies industriels.
Jeune retraité Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, voilà des années que ce vrai journaliste dénonce la connexion des institutions européennes et des entreprises. Comment les institutions européennes sont de plus en plus au service des entreprises. Alors, il y a ce mot de lobbying qui est un mot que nous n'aimons pas, mais ce mot a une histoire.
Les lobbies existent depuis toujours. Depuis la création du monde industriel, ils ont commencé surtout dans le monde anglo-saxon. Et ça s'explique très bien. Pour légiférer en matière industrielle, commerciale, le législateur doit essayer de comprendre au mieux ce qui se passe dans le monde industriel. Donc il doit le consulter, ce qui est tout à fait normal. Hein, on ne va pas légiférer n'importe comment. Il faut que la loi soit précise, pertinente. Et donc aux États-Unis, les lobbies, parce que les États-Unis c'est un très très grand pays, 6000 km de largeur, les lobbies se sont installés à Washington à la fin du 19e siècle pour être près du Congrès et pour informer le Congrès. Mais très vite, ça a dérapé. C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes qui vont les voter sans problème, ne comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça. Et le même processus s'est passé en Europe au début des années 80. On a créé la table ronde européenne des industriels pour ça et uniquement pour ça, pour légiférer avec les juristes de la Commission européenne. Et donc la table ronde européenne des industriels existe depuis mars 1983 et depuis elle ne fait que ça. Et elle va très loin parce qu'elle ne s'occupe pas seulement de rédiger la loi européenne, donc la loi qui nous concerne tous les jours. Elle donne les grandes lignes de la politique à suivre. Par exemple, en 2002, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la bonne gouvernance européenne. Que trouve-t-on dans ce livre blanc ? Que les parlements sont trop lents, mettent trop longtemps à comprendre les dispositions réglementaires élaborées par la Commission européenne, et donc qu'il faut se passer d'eux, y compris le Parlement européen qui n'a pratiquement rien à dire. Donc comment s'en passer ? Oh, idée de génie qu'ils ont eue, encore une fois, on a copié sur les États-Unis, on va faire des agences, comme la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui est l'agence qui réglemente tout ce qui est médicaments et alimentation. Quelle est la différence entre une agence et une direction générale de la Commission européenne ? C'est que l'agence est indépendante. C'est que l'agence ne réglemente pas par directive européenne, c'est-à-dire par des lois, mais par des réglementations. Et que ces réglementations ne passent plus devant les parlements nationaux, qui ne sont pas tenus informés. Il y a déjà 10 agences européennes. On va créer probablement des agences pour tout ce qui concerne la politique ou les politiques de l'Union européenne, une agence agriculture, une agence commerce extérieur, une agence commerce intérieur, une agence économie et finances, qui vont être installé par exemple pour l'agence développement, ce sera probablement à Montpellier en France. L'agence agriculture Parme, la ville italienne, est candidate. Donc tout est déjà préparé. Une fois que ces agences seront créées, il n'y aura plus aucun contrôle démocratique sur la politique de l'Union européenne. Plus aucun. Et tout ça est en train de se préparer à notre nez et à notre barbe sans qu'on soit tenu informé.
Pourtant, c'est pas ce qui manque. L'information, on en a de tous les côtés, ça nous tombe de tous les côtés, on est oppressé d'informations à longueur de temps. Et effectivement, Gérard de Sélis n'a pas entièrement tort, avez-vous souvent entendu parler de la théorie, vous avez entendu parler de ça ? La table ronde européenne, autrement dit ERT en anglais, European Round Table. pas beaucoup quand même d'entre nous qui, pour qui c'est des termes courants et des notions et des informations très précises. Et pourtant, ce lobby réunit les dirigeants de 45 entreprises européennes de taille mondiale qui très régulièrement exercent des pressions sur la Commission européenne à laquelle le groupe fait connaître ses attentes sur des questions de société majeures, pas seulement sur du conseil, de l'expertise, mais véritablement oriente la politique européenne et nos vies quotidiennes. On continue cette découverte, pour beaucoup, en tous les cas pour nous, de la lobby planète avec Éric Besselius.
Ici, c'est l'avenue Gutenberg. On ne peut pas comparer avec K Street in Washington, mais c'est une des avenues importantes avec beaucoup des ambassades des pays membres de l'Union, mais aussi beaucoup des bureaux de lobbying.
C'est vrai qu'on croise des gens qui parlent toutes les langues. On entend des petits bouts de phrases en espagnol, en italien,
en danois,
en allemand.
C'est ça l'ambiance de ce quartier. On peut voir les lobbyistes et les bureaucrates sur le trottoir.
Oui, ça.
On a même, une fois, on a rencontré M. Bolkestein ici sur le trottoir. One of the examples where you have the clear effect of what happens here in Brussels on daily people's life is the chemicals directive.
Oui, so un exemple vraiment de ce qui se décide ici à Bruxelles et qui a un impact sur la vie des gens, c'est par exemple les directives sur tous les produits chimiques.
So that's a proposal which was launched by the European Commission a few years ago.
C'est une proposition qui a été lancée par la Commission européenne il y a quelques années.
To have a system of registration and evaluation of all chemicals that are on the market in Europe that are used by industry.
Pour répertorier et enregistrer tous les produits chimiques qui sont utilisés par les industries européennes.
Because right now only 10% of the chemicals that are used, it is known what is the effect for human health, for the environment. For the rest, we just don't know. But they are used.
Il y a simplement 10% des produits chimiques qui sont utilisés en Europe dont on connaît les impacts et les répercussions sur la santé publique, sur l'environnement. Tous les autres produits qui sont utilisés n'ont pas été étudiés pour savoir quelles auraient été les conséquences. Et pourtant, on les utilise massivement. Et
alors, so I think this is a good European initiative, which I would defend. But the chemical industry has started a fierce lobby to undermine the proposal of the Commission, etc.
Donc, par principe, cette décision européenne est une bonne décision qui permet de mettre à plat tout l'usage des produits chimiques et de leurs conséquences. Simplement, ces mêmes industriels de la chimie ont déployé des efforts incroyables de lobbying pour justement enlever tout un tas de produits de cette liste et la rendre inefficace, cette directive, pour évaluer les risques encourus par l'usage de produits chimiques.
Lobbying à Bruxelles, l'industrie de la manipulation qui essaye évidemment de se présenter autrement, qui lorsque j'emploie une expression comme celle-là, manipulation, ricane et dit vous caricaturez, vous exagérez, etc. Je crains que nous n'exagérions pas suffisamment. En tout cas, ces informations sont rares sur les manipulations, sur l'influence, sur le poids de ces lobbies qui défendent, on le disait, aux deux tiers des intérêts exclusivement industriels et commerciaux et qui contribuent à faire la loi, et parfois même directement. Exemple par Gérard de Sélis.
Moi, en cherchant, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un avocat qui travaillait pour un lobby, le lobby de la reproduction, donc tout ce qui est reproduction de musique, la reprographie en fait. Et tout fier, il me montre une proposition de directive qu'il a rédigée pour le monde de la reprographie. Et il me dit, tu vas voir, ils vont l'adopter sans changer une virgule. Et on a attendu 3 mois, et effectivement, les ministres européens ont adopté la directive écrite dans un bureau privé ici à Bruxelles, telle qu'elle, sans avoir changé une virgule. Une directive écrite par l'industrie. Bon, j'ai expliqué ça dans ma radio, puisque j'étais journaliste radio, j'ai expliqué ça. Je suis revenu sur la chose, j'ai expliqué aux gens en quoi ça leur coûtait cher, en quoi ça leur coûtait plus cher, etc. Donc, on peut expliquer, mais vraiment secteur par secteur, en quoi la législation européenne et les volontés des lobbies qui sont derrière nous touchent quotidiennement.
Lobby Planète, balade dans la planète des lobbies à Bruxelles. Dans ce qui est visible, encore une fois, hein, c'est dans la rue, il suffit de regarder, d'ouvrir une porte, d'aller voir les boîtes à lettres dans le hall d'un building. C'est ce que nous faisons avec un chercheur critique, très critique, Eric Vesselius.
Donc ici, nous en Norton. Donc on va entrer dans le lobby. Ici, un autre microcosme du lobbying. Donc, les deux étages supérieurs, c'est Hill & Knowlton, one of the biggest public relations and public affairs companies.
C'est du public affairs et public relations, c'est-à-dire ces conseillers qui aident une entreprise ou une société à intervenir et à faire promouvoir ses idées sur le marché européen à travers les médias.
In the third and the fourth floor is Burson & Marsteller, and their public affairs arm, BKSH.
Le troisième et quatrième étage, c'est un autre de ces grands cabinets d'influence qui s'appelle Burson & Marsteller. Et leur branche qui est sur les affaires public affairs, c'est-à-dire la politique.
Relations gouvernementales.
Voilà, relations gouvernementales.
Also, an office of an individual company, Unilever, a food company, big food company.
Unilever, une des plus grandes multinationales au monde, qui plaide sa propre cause elle-même.
A very interesting organization is this one.
Ça, c'est une organisation qui est très intéressante, BSEF.
Bromine Science and Environment Forum.
Le forum pour la science et l'environnement sur le brome.
Alors, attendez. Le brome, il faut que vous sachiez, pour comprendre ce qui va être dit, ce qu'est le brome. Alors, on a regardé dans notre gros dictionnaire et on a lu ceci. Le brome est un élément atomique halogène. C'est un gaz rougeâtre et suffocant, toxique, extrait des eaux marines et des marais salins, qui entre dans la composition d'insecticides, d'herbicides et de produits de nettoyage.
You might think that this is kind of an alliance of scientists and environmentalists who are concerned with the effects of brome.
On pourrait croire que c'est une réunion, un gros groupement de scientifiques et de d'environnementalistes, puisqu'elle parle de forum environnemental, qui sont soucieux des conséquences que peut avoir l'usage du brome.
But if you are here, you see that they're on the same floor as Burson & Marsteller.
Mais si on regarde là, on voit qu'ils sont au même étage qu'une grande compagnie de lobbying.
And in effect, the only members of the organizations are the four big producers of bromine.
Or, il se trouve que
four industries.
Les quatre principaux membres de ce forum pour la science et l'environnement sur l'usage du brome sont les quatre principaux producteurs de brome.
And they have established here in Brussels because at the European level there was an initiative to forbid certain substances made out of brome.
Et ils sont présents ici à Bruxelles parce qu'il y avait des projets de loi et de directives européennes visant à interdire certain nombre de produits dérivés du brome pour des raisons d'environnement.
They have campaigned, they present themselves as a kind of an organization that fosters scientific research to create real scientific facts on the effects of these substances.
Et donc ils ont fait une très forte campagne en se présentant comme une organisation qui amène des faits, des données scientifiques sur cette question-là.
And in fact, it doesn't even exist, the organization, because the whole organization is run by employees of Burson & Marsteller. So basically, all the money of BSEF goes through Burson & Marsteller.
Et en fait, cette organisation n'existe même pas. Le forum en sciences et d'environnement pour le brome n'existe même pas, puisque tous ceux qui travaillent pour ce cabinet de lobbying et d'audit qui s'appelle Burson & Marsteller, et tout l'argent va dans les poches de ce cabinet.
So it's an alliance of those four big bromine producers, which is practically run, the political work here in Brussels is practically run by this company, Burson & Marsteller.
Donc, financé par les quatre principaux producteurs de brome, ce cabinet, en réalité, mène la politique européenne sur ce produit chimique qui peut être dangereux.
Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ce que tu dis est ennuyeux. Tu comprends? C'est ça qui est très malin, c'est que c'est ennuyeux. Et pour des reporters, pour les gens qui font du reportage, on est dans un reportage ennuyeux. Il n'y a pas de choses sexy, il n'y a pas de choses amusantes, il n'y a pas de gens avec des plaintes et des choses très émouvantes, il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a pas de mère qui arrive en hurlant sur la caméra. Il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est lent. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, non? C'est cette opacité, ces obstacles, ces difficultés.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on emmène des gens ici, parce que quand je raconte cette histoire dans une salle, c'est même plus ennuyeux.
Encore plus ennuyeux.
Ah oui, là, c'est un peu vivant.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous avez inventé...
Essayez de transmettre un message qui est bien difficile de transmettre.
En faisant cette visite guidée, ce lobby planète, dans la lobbycratie de Bruxelles, ce que vous appelez... Oui.
On a trouvé les méchants, on a trouvé les vilains, on a trouvé ceux qui sont au service des dominants. Je rappelle la phrase de Bourdieu, les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. Qu'en pense Gérard de Sélis ? Je rappelle qu'il a été pendant des années ex-journaliste de la RTBF, de la radio-télévision belge, et qui pendant des années et des années s'est penché sur les institutions européennes de plus en plus au service des entreprises. Comment, qui sont ceux qui collaborent à tout cela ? Gérard de Sélis.
Est-ce que ceux que tu as rencontrés au cours de ces années qui travaillent dans ces boîtes de lobby, est-ce qu'ils approuvent ? Est-ce qu'ils sont des militants zélés ? Ou bien est-ce qu'ils font ça parce que c'est un job plutôt bien payé et une situation plutôt enviable ?
Je ferai un parallèle entre eux et les fonctionnaires de la Commission européenne. Ce qui se pratique beaucoup, et dans les lobbies, et à la Commission, c'est qu'on fractionne tellement le travail des gens qu'ils ne savent pas exactement à quoi sert leur travail quotidien, vers où il va. Mais quand on met tout ensemble... on se rend compte que ça va dans une direction bien définie. Et donc, ce qui m'est arrivé souvent, par exemple, sous le règne de Madame Cresson, commissaire à l'éducation à son époque, c'était de préparer la marchandisation de l'enseignement européen, donc de mettre des fonctionnaires européens à la tâche, mais chacun ignorait totalement ce que faisait l'autre. Et quand j'ai compris ce qui se tramait, j'ai été tous les trouver les uns après les autres en disant « voilà ce que fait votre collègue, voilà ce que fait votre... » Ils étaient révoltés. Scandalisé, parce que c'était absolument pas leur intention. Et dans les lobbies, c'est la même chose. Vous avez des braves juristes qui font un travail tout à fait pointu, mais pas d'ensemble, et qui ne se rendent compte absolument pas du résultat final. Parce que le résultat final, qui il met ensemble ? Mais ce sont les grands patrons de ces lobbies. Ce sont les directeurs généraux de la Commission européenne. Ce sont les cabinets de commissaires européens. Eux savent ce qu'ils font.
Les méchants, c'est eux. Voilà. Voilà les méchants.
Depuis le discours de Jacques Delors devant le Parlement européen en janvier 1985 sur le grand marché, la règle d'or en Europe, comme aux États-Unis, c'est que c'est le marché. On parle de démocratie de marché, n'est-ce pas ? Donc le meilleur moyen d'être démocrate, et que la démocratie fonctionne bien, c'est de la laisser conduire par le marché. Quand on voit ce que le marché provoque comme catastrophe, comme guerre, etc., on peut se poser des questions, mais c'est la règle d'or. Et Jacques Delors, en 1985, avait annoncé donc la volonté de la Commission de créer le grand marché en Europe, en annonçant à la clé, dans le même discours, la création de millions d'emplois. On laisse faire les entreprises, vous allez voir, elles vont créer des millions d'emplois. Ceci dit, un rapport interne à la Commission européenne, quelques mois plus tard, a dit exactement le contraire, mais on n'a pas publié le rapport. Donc, c'est une sorte de credo général qui gagne même le monde socialiste, des gens qui devraient être en première ligne pour défendre le service public, le service au public, qu'on paye le même prix dans la campagne éloignée pour l'électricité et l'eau qu'en ville où tout le monde est... Bon. Il y a deux siècles, Adam Smith, grand théoricien du capitalisme du début du 19e siècle, disait que c'est la main de Dieu qui répartirait les richesses. Ça fait quand même deux siècles qu'on sait que la main de Dieu est un peu paresseuse pour une juste redistribution des richesses. Mais c'est le discours d'aujourd'hui. C'est le discours d'aujourd'hui.
Il y a deux bouteilles de champagne sur le bord de la fenêtre. C'est la cuvée du capitalisme. C'est des magnums de champagne, la cuvée du capitalisme. Et ça, on pouvait boire le champagne qui était dedans lors du bal du capitalisme. Vous avez organisé un bal du capitalisme.
Absolument. Alors, je suis Cécile Philippe et donc je suis économiste de formation et je travaille pour le Center for the New Europe. Je suis le directeur de l'Institut économique Molinari. Alors, l'Institut Molinari, c'est un institut d'éducation et de recherche en économie. Donc, notre approche, c'est une approche de marché. On préconise les solutions de marché contre l'interventionnalisme.
C'est-à-dire que vous êtes alors franchement libéral. Si on vous dit que vous êtes ultra-libéral, c'est trop.
Ça dépend ce que vous entendez par ultra-libéral. Pour moi, le ultra-libéral, ça n'a pas beaucoup de sens. On est libéral ou on n'est pas libéral. On est pour la liberté des échanges ou on n'est pas pour la liberté des échanges. Mais il n'y a pas véritablement de demi-mesure. Alors, si être ultra-libéral, c'est être pour la liberté des échanges, alors je suis ultra-libéral.
Voilà, les choses sont claires, les choses, on n'est plus là dans l'ombre, dans les choses un petit peu gênées, planquées, complexées, qui agissent par derrière, etc. Là, on y va franchement. On est dans le Center for the New Europe et cette jeune femme s'appelle Cécile Philippe. Il y a avec elle Xavier qui lui aussi travaille et, dans ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire, là on n'est plus dans, tout à fait dans le lobbying, on est dans le think tank, c'est-à-dire dans ces boîtes à idées, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment à Washington, et qui ont pour but, ben, comme on le suppose, d'influencer, de fabriquer des idées, de faire des recherches au service de cet ultra-libéralisme franchement affiché. Vive le capitalisme, vive l'ultra-libéralisme. Et bon, ce centre n'est pas... Il y en a d'autres qui s'installent. Ça se multiplie, hein, si vous voulez trouver un bon job. Vous créez un think tank à Bruxelles. Ça se développe. Et celui-ci, le Center for the New Europe, a quand même publié quelques douzaines de livres, plus d'un millier d'articles dans des journaux et magazines, a reçu pour des déjeuners, dîners, discussions, plusieurs centaines de membres du Parlement européen, des employés à la Commission européenne, de hauts fonctionnaires au Conseil des ministres, ou d'autres institutions européennes, ainsi que des étudiants européens, des journalistes et des hommes d'affaires. Et ce think tank s'est connu sous le simple nom maintenant de CNE, CNI. Voilà, c'est un endroit tout à fait sympathique et qui milite à fond pour le capitalisme. We trade the world. Alors, parlez-nous du centre Center for New Europe.
Alors, ce centre aussi, c'est un institut de recherche. En fait, on est des think tanks, comme on les appelle, comme il y en a des milliers à Washington et comme il commence à en avoir de plus en plus à Bruxelles. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de Bruxelles comme le nouveau Washington. Nos instituts ne font pas du lobbying. On ne va pas voir les parlementaires ou les députés pour leur dire « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». On cherche à parler à l'opinion publique par tous les moyens possibles qui atteignent l'individu dans sa maison.
Alors vous êtes d'accord pour qu'on parle d'idéologie ?
Bien sûr.
D'accord.
On défend des idées.
Vous défendez des idées, en l'occurrence une idéologie libérale.
Absolument.
Que vous pourriez résumer comment ?
En deux mots, la souveraineté du consommateur. On veut que ce soit le consommateur qui décide, et comme chacun est un consommateur, et donc forcément les moyens dérivés, c'est la concurrence. C'est le libre-échange, c'est la liberté individuelle, sans frontières, sans barrières.
Notre philosophie a plusieurs étendards, libéral européen, pro-marché, individualiste, progressive et bien d'autres encore. Nous disons simplement libéraux.
Et ce sont des valeurs auxquelles on croit, c'est la valeur du respect pour chaque individu, l'égalité devant le droit, la possibilité pour chacun de choisir pour sa vie, etc.
Alors en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus ?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement ?
Mais les droits sociaux, les droits des travailleurs, les législations sur le travail, la protection sociale.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus, y compris les moins qualifiés, y compris les plus pauvres, que de toute façon ça bénéficie à tout le monde.
Vous luttez contre l'État-providence.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que l'État-providence est un bon moyen pour atteindre un objectif qui est super, qui est celui que nous, on défend, qui est celui de la prospérité maximale pour tout le monde. Et voilà, il y a deux moyens. Alors, il y a le moyen de passer par les réglementations, passer par un petit nombre d'individus qui vont décider pour tout le monde, donc les réglementations, les cotisations obligatoires, face à, justement, des échanges volontaires entre individus qui décident de travailler ensemble, qui décident d'échanger, qui décident de circuler, etc. Et ça, ce deuxième volet, on le juge beaucoup plus efficace à la promotion de la prospérité pour tout le monde.
D'accord. Comment vous expliquez que depuis 20 ans, où on voit l'application de vos théories
dans la vie de plus en plus. Comment vous expliquez l'accroissement des inégalités dans nos sociétés et à l'échelle planétaire ?
Mais écoutez, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que justement, je ne pense pas que depuis 20 ans, on assiste à une...
Un accroissement des inégalités, pour vous, non. Il n'y a pas d'accroissement des inégalités.
Oui, si, je vous avouerai que j'aurais du mal à juger comme ça, un accroissement des inégalités. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a accroissement des inégalités, ce n'est pas parce qu'il y a du libre marché à tout craint.
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un domaine de l'économie, pratiquement, qui n'a pas fait l'objet de réglementations étatiques, je ne sais même pas si on peut en citer un domaine qui n'est pas réglementé. En France, les dépenses publiques, c'est pratiquement 60% du PIB. Après, je trouve du coup que l'identification inégalité sociale égale parce que marché libre, je trouve ça extrêmement difficile à faire.
Si on avait plus de déréglementation, c'est-à-dire plus de libéralisme, on aurait moins d'inégalités.
Je pense en effet qu'on aurait beaucoup moins d'inégalités.
On vit un peu le socialisme encore pour vous. Hein. Le mur de Berlin n'est pas tout à fait tombé ici.
Larvé. Un socialisme larvé. We trade the world.
On voit trois lobbyistes devant la porte de l'UNICE. It's the European Employers Confederation.
Ah oui, c'est le MEDEF.
C'est le MEDEF européen.
MEDEF is one of the members of...
Le MEDEF est membre de l'UNICE. Et c'est Ernest-Antoine Seigneur qui a quitté le MEDEF avant la fin de son mandat en laissant les pauvres patrons français pour venir prendre la tête du syndicat des patrons européens.
Well, the nameplate is also interesting. It's very makeshift. It's just a piece of paper with some plastic cover.
Oui, c'est vrai que
there wasn't even a nameplate there here in this building since 2 years.
Il y a encore 2 ans de ça, il y avait même pas de nom sur le bâtiment. Et là, c'est intéressant de voir que c'est un pauvre papier scotché sous du plastique qui a été mis sur la façade, alors qu'avant c'était une façade complètement anonyme.
Normally, when you would have a corporate office, you would have a nice polished nameplate, which proudly announces what's in.
Normalement, quand c'est le siège d'une boîte, il y a toujours des grands logos, des grands sigles qui annoncent la couleur.
But for lobbying, it's very important to be effective, but not to be seen. Voilà. So you have to be discreet.
Alors que pour les lobbies, le plus important, c'est d'être efficace. C'est pas d'être vu. Donc c'est pour ça qu'ils sont très discrets.
And then there's one organization that I want to mention, which is in the building and which even doesn't have a name saying.
Il y a une organisation dont je voudrais vous parler aussi, qui est dans ce même bâtiment, mais qui prend même pas la peine de l'afficher dans le hall.
It's the European Services Forum.
C'est le forum des services européens.
And it's representing the European services industries.
Qui représente l'industrie des services européens.
And this is a lobby which was created to influence the European Union's position in the WTO negotiations on services, IGCS.
Et qui est un lobby qui a été spécifiquement constitué pour influencer les institutions européennes dans le cadre des négociations à l'OMC sur l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services.
And what is so typical about this organization is that it was not industry that decided, come, let's lobby the commission and let's influence how they negotiate in the WTO, but it was the predecessor of Pascal Lamy, Liam Britton, who asked one of his friends, a British banker, Andrew Buxton, to create this lobby. So the commission went to industry and asked them, please come and lobby us because we need direction. We don't know.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est même pas les grands industriels des services qui se sont ligués pour pouvoir faire pression sur la Commission européenne dans leurs intérêts. Non. C'est le prédécesseur de Pascal Lamy, le commissaire Léon Britten, qui avait demandé à un de ses amis banquiers, Andrew Buxton, en lui disant, mais il faut que tu crées un lobby des services parce qu'on a besoin, nous, les institutions européennes, d'avoir un interlocuteur qui nous dise ce que veulent les industriels des services. Donc c'est la Commission européenne qui a elle-même sollicité la création de ce lobby pour la privatisation des services.
Bon, Eric, donne-nous la solution. Comment s'en sortir? Comment en finir avec tout ça?
Well, it's clear that something needs to be done to get rid of this lobbycracy in Brussels.
Bah, c'est qu'en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour se débarrasser de cette lobbycratie ici à Bruxelles.
So a first step will be to convince citizens and people within political parties that this political power of big corporations is really a problem for democracy.
Déjà, c'est de convaincre les citoyens, aussi bien que les politiciens, que cette prépondérance des grandes entreprises dans l'appareil politique est quelque chose à remettre en cause.
Of course, they should take account of the opinion of business. But business shouldn't be given the privileged position that it holds right now.
Bien sûr qu'il faut prendre en compte les considérations des entreprises, mais c'est pas celle-ci qui doit entrer en premier lieu. C'est pas la première préoccupation ce que réclament les grandes entreprises.
And more in general, it would mean a re-envisioning of the functioning of the European Union political system at the EU level.
Ça remettre en cause aussi le fonctionnement des institutions européennes et remettre à plat le fonctionnement des institutions au niveau politique.
Merci à tous, c'était le Biplanète. Merci à Eric Vesselius de Corporate Europe Observatory et à Gérard de Célis à lire le guide de le Biplanète édité par Corporate Europe Observatory. Lire alinéa 3 l'Europe telle qu'elle de Gérard Célis aux éditions EPO. Europe Inc. Comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale de l'Observatoire de l'Europe industrielle aux éditions Agone. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, qui attend vos messages. Vous pouvez y réécouter cette émission pendant 24 heures. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org et là aussi faire les messages que vous souhaitez. À la technique, Pierrick Mossigny et Rémi Quincez aujourd'hui. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutère qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Quant à elle, attend vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Réclame.